quelle heure il est là? Il est 3h, hein? Bon, on va aller se détendre un petit peu, non? On va chercher le lit et puis on va s'installer quelque part dans les salles. Hein. Faut pas trop fermer les yeux, quoi. Hein. À moi-même, je vais m'installer à côté de l'homme qui marche. Puis on va se reposer un petit moment. On va bien le caler parce qu'on a des cales à nous. On va bloquer les roues. Voilà. Mais voilà, à quoi je pense? Je sais pas si je pense à quelque chose. Et pourtant si, les silences, c'est ça qui est bien, il est reposant, il est tranquille. Il a des bonnes jambes, l'homme qui marche, beaucoup de muscles. Quand on le regarde et qu'on l'observe, on voit bien qu'il n'a pas un pas naturel. C'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on ne pourrait pas reproduire. Donc la sculpture n'est pas tout à fait fidèle à la réelle démarche d'un homme qui marche, quoi, en fait. J'aime bien le côté sans tête de la sculpture et en fait il pense par ses jambes quoi. C'est le côté mécanique et instinctif de l'homme qu'on croit qu'il ne sait pas où il va mais il sait très bien où il va. Surtout par le, en fait, par le traitement qu'on a fait Rodin quoi.
Bon, ce soir on a un ciel farceur je dirais. Il était tout couvert le temps de monter sur le toit et ça se découvre. 3h du mat, c'est le meilleur moment. On aura peut-être Saturne. La lune derrière les nuages. Donc je règle la mise au point. Ouais, voilà. Bon là normalement c'est waouh. Alors là je vais le suivre à la main sans le moteur. Là j'ai Jupiter au centre, un gros disque. Bien rond, avec en son centre, on en voit très nettement deux bandes, beaucoup plus sombres que le reste de la surface, deux bandes un peu orangées. Et on voit très nettement à côté, de part et d'autre, quatre petits points blancs, qui sont les quatre satellites principaux de Jupiter, qu'on appelle les satellites galiléens, parce qu'ils ont été découverts par Galilée en 1610. C'est impressionnant, c'est la reine des planètes. Hein. Jupiter, c'est Zeus hein, quand même. Hein, donc là, c'est très noir. Là, on plonge dans le fond de l'univers.
C'est parti, ça tourne. Là, j'ai donc mis mon mantelise, mon sel, mon levain dans mon pétrin. Et puis le pétrin, il est en train de tourner. Il fut un temps, je pétrissais quelques pâtes à la main. Là, maintenant, non. C'est joli, j'aime beaucoup cette forme. Ce rond, enfin, cette forme qu'elle donne à la pâte, enfin, que le pétrin va donner à la pâte quand elle va être prête. On dirait une fleur ou une danseuse de flamenco avec sa robe. Voilà, là la pâte est. Elle se décolle bien, elle forme des bourrelets. Elle est belle là. On va l'arrêter, on va la mettre sur 1. La pâte vit, vous la ressentez quand je la divise, quand je la façonne. Ça se ressent, elle a de l'énergie, elle est. Elle bouge, elle se défend, mais elle se laisse faire aussi. Elle va chanter, quand elle va sortir du four, elle va chanter. C'est vrai que ça, c'est beau. Un pain qui chante en sortant du four, c'est beau.
Traverser la nuit. Un documentaire d'Élise Andrieux et Julie Béressy.
Je suis Cathy et je suis boulangère. Ça fait pas longtemps que je le dis, ça, que je suis boulangère. Avant, je disais je fais du pain. Je me considérais pas comme telle ou pas à la hauteur ou pas, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Mon fournil, ma boulangerie est un peu atypique. Elle est au bout d'un chemin, près de Tours. On passe pas forcément devant. Il faut faire un petit crochet pour venir jusque-là.
Moi, c'est Christophe. Je suis agent de sécurité de nuit au musée Rodin. Donc voilà, j'arrive à mon placard où je vais m'habiller en tenue de sécurité pour passer la nuit. Un pantalon, un polo à enfiler et aussi des chaussures de sécurité.
Alors moi, c'est Pascal. Donc je suis astronome ici, à l'Observatoire de Paris, et plus particulièrement dans l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et notre corps de métier, c'est tous les mouvements célestes, hein, ce qu'on appelle la mécanique céleste.
Ils sont trois. L'astronome, l'agent de sécurité et la boulangère. Habituellement, on ne les voit pas. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de travailler la nuit, pour être dans l'ombre, dans le silence et l'immobilité. Peut-être parce qu'ils ont quelque chose à ne pas dévoiler et que c'est plus facile la nuit. Chez Cathy, il fait chaud, ses fours à pain sont installés en Touraine, au bout d'une route minuscule. L'Observatoire de Paris, où se trouve Pascal, nous emmène à 27 mètres de haut, sous une coupole datant du 19e siècle et qui tourne en grinçant sous les étoiles. Christophe, lui, fait sa ronde au musée Rodin, des sous-sols jusqu'aux combles, là où le sculpteur lui-même habitait autrefois. Pourquoi croiser le ciel, le pain et les sculptures dans une même nuit? Parce que Cathy, Pascal et Christophe regardent au même endroit, à l'intérieur des choses, là où la magie arrive. Ils sont trois, la boulangère, l'agent de sécurité et l'astronome. Ils se répondent sans jamais se rencontrer et nous apprennent à voir comment, depuis notre solitude à nous, nous relier au monde entier.
Là, on va partir en ronde. Il est 20h15. Je vais mettre la torche. Donc oui, on part avec une torche parce qu'on rallume pas tout le musée pour partir en ronde. Hein. Puis on balaye au fur et à mesure toutes les salles du musée en prenant avec les œuvres. Voilà. On va commencer dans l'ordre comme les salles se présentent au public dans la visite traditionnelle. On va arriver dans la salle 1 avec les premières œuvres de Rodin, le nez cassé, l'homme au nez cassé. Un petit tour, on regarde si tout est en place, si enfin on est attentif à ce que tout soit en ordre quoi en fait. Hein. Voilà, donc on traverse. Et là, on arrive dans la salle du baiser. C'est pas une sculpture que j'apprécie particulièrement, le baiser. C'est pas tant le contexte, en l'occurrence l'adultère, qui est gênant, mais si on regarde bien Paolo embrasse à reculons. Il ose, tiens, regarde, on va approcher la lampe. Il ose à peine poser sa main sur la cuisse de Francesca. Et Rodin a bien retranscrit cette attitude un peu gênée de Paolo. Et Francesca, elle, au moins, elle est amoureuse, elle est pure dans son amour. Je pense que si Paolo avait vraiment aimé Francesca d'un vrai amour, il ne se serait pas posé la question de la culpabilité. Enfin, pour moi, le problème, c'est pas l'adultère. Le problème, c'est que c'est Paolo qui n'est pas amoureux, tout simplement. Ce sont les collègues.
Vous, quand vous êtes amoureux, est-ce que justement vous vous donnez complètement?
Oui, justement, oui, ben...
Oui, c'est ça, on t'écoute.
Est-ce que vous avez connu l'amour?
Oui, je l'ai connu. Oui, on y va... Ça prend tout de suite une dimension... Ça nous déborde, oui, ça nous déborde de partout, jusqu'aux étoiles. Ouais, je pense que, enfin, je peux pas m'imaginer vivre sans avoir aimé, quoi, voilà. Oui, j'ai envie de dire que même si cet amour est passé, il est toujours là, plus fort que tout, quoi. Mais ça reste comme un... J'ai envie de dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qui reste. Il y a une belle phrase d'Eric de Luca qui dit... Il y a dans mon cœur une neige qui ne fond jamais. J'ai l'impression que c'est un peu ça, comme un noyau dur au fond de soi-même qui reste. C'est indestructible, c'est un... C'est... Voilà. Donc aussi la cathédrale, c'est une magnifique sculpture en pierre blanche, pleine de finesse et de délicatesse. Ce sont deux mains qui se rencontrent et qui s'élèvent vers le ciel. Je trouve que la symbolique des deux mains qui se donnent est beaucoup plus forte que celle du baiser. Donner sa main, ça implique vraiment beaucoup de soi-même. Donner sa main, c'est donner sa vie, quoi, en fait.
Là, je suis en train de façonner la brioche épeautre. C'est de la brioche à la farine de petite épeautre. Je la mets en forme pour pouvoir la cuire tout à l'heure. Comme une pâte à modeler finalement. En arrivant à la boulangerie la nuit, enfin quand je commence, il est souvent une heure et quart, tout dépend. Je commence par me faire un café. Ça, c'est le départ. Après, j'allume mes fours. Je prépare mon levain de petite épeautre, mon levain de sarrasin. Et après, je m'occupe de tout ce qui est briocherie. Et ensuite, j'entame sur le façonnage, le divisage des pains. Et je vais pétrir aussi. C'est toujours bien précis, bien, on va dire, bien rythmé. Mais c'est jamais pareil. C'est ce qui est magique dans la nuit. Parce qu'on n'est pas pareil. Voilà, on va mettre un petit peu de pépites de chocolat. J'incorpore les petites pépites. Ça sent bon le chocolat. Voilà, les mettre en forme, faire des petites boules. Et puis ça va lever, je vais mettre ça dans des petits moules. Je sais quand je commence... Je sais rarement quand je termine. Je ressors de la boulangerie souvent le lendemain, en fin de journée. Il peut être 20h en ce moment, il est un peu plus tôt parce que depuis peu, j'ai la chance d'avoir une aide. Ça m'aide à la production et ça me permet de faire un petit peu moins d'heures. Parce que jusqu'à maintenant, c'était effectivement arriver une heure et demie... Et départ le lendemain était souvent 22h, voire au-delà. Donc ça faisait une amplitude horaire qui était assez importante. Et on sait où me trouver. Mes amis savent où me trouver. C'est pas la peine de chercher, je suis à la boulangerie. Je vais aller chercher les raisins.
Le sommeil n'était pas un problème.
Le sommeil, pour moi... Ça fait tellement longtemps que je demande à mon corps de peu dormir que je crois que ça y est, il a intégré. Et puis bon, la passion du pain l'a emporté. Enfin, je le dis, c'est une passion, c'est quelque chose qui me tient. Enfin, entre la passion et la folie, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas une grande marche. Ça, c'est le café, c'est important. On a les raisins. Tout ça a fait que donc, j'ai pu embaucher. Donc depuis une semaine maintenant, une dizaine de jours, j'ai un boulanger, un jeune homme de 19 ans, Olivier, et ça se passe très bien. Mais c'est pas facile, et quand la première fois qu'il a mis... je lui ai fait démarrer une pâte, et la première fois qu'il a... Donc forcément, il fallait qu'il touche à mon levain à mon bébé. Et la première fois qu'il a mis les mains dans mon levain, ça m'a fait bizarre. Et je lui ai dit, oh, et quelqu'un d'autre qui touche à mon levain, c'est incroyable, c'est jamais arrivé. Et c'est quelque chose qui était à moi, c'est que j'ai depuis 20 ans, que je porte, que je nourris, que je... Et il y a quelqu'un d'étranger qui vient mettre les mains là-dedans. Voilà. Là, je vais enfourner la brioche épeautre, mais malheureusement... Après, les odeurs, vous n'allez pas les avoir. Ça, c'est bien dommage. Ça fait tellement d'années que je la manipule, cette pelle.
Dans les nuages, mais la lune est bon. Voilà. Là, j'ai la lune. En petit et en gros. Voilà. La lune. On a un grossissement de 300 sur la grande lunette. On est presque à la pleine lune. Bon, là, elle est en plus un peu filtrée par des nuages.
Et là, je vois plus rien.
Ouais, ben, elle est sortie. Il faut que je mette le moteur, hein. Pointe. Ah, on a. Ouais, elle essaye de tenter une percée, mais c'est difficile. Hein. Se frayer un chemin au milieu des nuages. Hein. Ah, non. Ça va, ça vient. C'est toujours un plaisir d'observer la lune. On ne s'en lasse pas. Hein. Puis bon, on a vraiment l'impression d'être. Surtout, bon, si là on observe avec l'oculaire, on la grossit 300 fois, on a vraiment l'impression d'être. De survoler. On pourrait presque la toucher. C'est l'astre de la nuit, par excellence. C'est notre montre à nous, quoi, en quelque sorte. Hein. Ah, ça y est, elle y est, là. Donc là, quand on l'a dans l'oculaire, elle est quand même très brillante, très lumineuse. Hein. J'essaye de faire la mise au point. Donc. On peut voir, en fait, ce que je vois, c'est qu'ici, on a une lune où on a des zones qui sont beaucoup plus sombres que les autres. C'est ce qu'on appelle les mers. On voit bien le relief. C'est-à-dire, on a des cratères sur lesquels on a des ombres à l'intérieur des cratères. À la surface, on voit, si je regarde bien au centre de la Lune, on voit des zones qui sont beaucoup au milieu de ce qu'on appelle des continents, donc... Non pas les mers, on a des... Ah, ça là, je vois plus rien. Là, c'est nuages. Il y a un côté magique là-dedans. Mais pour ça, il faut essayer de tout oublier ce que l'on sait, c'est pas facile.
Pour qu'il y ait de la magie, il faut tout oublier ce qu'on sait.
Ah, oui, parce qu'on sait trop sur... Bon, la Lune, on a l'habitude de l'observer, on la connaît par cœur et tout. Mais malgré tout, oui... C'est toujours un vrai spectacle, quoi. Toujours ce côté, ben, elle est là, elle est là. Pensez qu'elle est quand même là depuis... ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle nous accompagne, hein, près de 4 milliards d'années. C'est comme une compagne, quoi. Presque, finalement. Et puis sans elle, je pense qu'on serait pas là aussi. Bon, on le sait maintenant. C'est-à-dire, sans la Lune, peut-être que la vie serait jamais apparue sur Terre. Ah oui, elle a un rôle considérable. Donc quand on la regarde maintenant, on a aussi un peu de respect avec elle par rapport au rôle qu'elle a joué dans l'histoire, en tout cas de la Terre, et puis de l'apparition de la vie, etc. Donc ça a eu un rôle tout à fait stabilisant et apaisant par rapport au chaos des premiers millions d'années d'existence de la Terre. Hein.
Le travail de nuit est particulier, bien sûr. J'aime cette solitude de la nuit. J'aime cette atmosphère, ce travail de la nuit. C'est prouvé, la nuit, déjà, et c'est magique. Il y a le calme, il y a... C'est paisible. C'est là que j'ai le temps de penser à plein de choses et de parler à mes pattes. Quand je suis pas contente et quand elle est pas belle, je peste. Quand c'est comme ça, je lui dis qu'elle est belle. Quand elle se pétrit bien, quand elle est... C'est beau, c'est magique. Ça, on s'en lasse pas. Alors, on a 6 vous êtes 42. Hop, voilà. Le pain pour moi... Enfin, là, je suis dans les brioches, mais le pain pour moi est important. Je peux me passer. Je crois que je ne suis pas tombée pour rien dans le pétrin. Je ne peux pas me passer de pain. Je peux me passer plein de choses. Je peux sauter un repas, enfin... Mais je vais avoir besoin d'un morceau de pain.
Vous en mangez tous les jours ?
Ah oui. Oui, oui. Oui. Ah oh, bah oui, quand même. Oui, oui, j'en mange tous les jours. C'est bon, le pain. L'odeur, la texture, le croustillant, le... Oui, la saveur, c'est important. Il y a plein de saveurs dans le pain. On peut retrouver des goûts de miel, des goûts de... Puis on peut faire tellement de choses. Moi, je suis incapable, enfin incapable, c'est un petit peu fort, parce que par la force des choses, je suis bien obligée d'y être à la vente. Mais c'est très difficile pour moi de vendre mon produit. Et après, peu importe, on va me dire que je suis folle, mais après, il faut que les gens puissent en profiter. Bien sûr, il faut que j'en vive. Donc, je suis quand même un petit peu obligée de le vendre. Mais si je pouvais l'offrir, le donner, c'est mon plus grand bonheur, ça. Je devrais pouvoir fabriquer, produire et offrir. C'est important de le partager. C'est important de le faire découvrir. C'est important de le... Moi, quand je suis à la vente, les clients, ils partent avec un truc en plus. Les trois quarts du temps... C'est demander quelque chose et j'ose pas demander d'une manière générale. Allez, on va démarrer la tradie.
Au musée, je marche parmi les œuvres, souvent désolées. Longtemps, je ne les ai pas vues. Un jour, j'ai réalisé que j'étais en elles, que je vivais en elles, avec un autre œil.
Écrire, c'est une... Quand on est dans, dans son écriture et qu'on concrétise, c'est une forme de plénitude. Chez moi, c'est jamais bien constant, c'est toujours un temps, ça s'inscrit toujours dans une parenthèse dans le temps. Et après, redescendre sur Terre, j'ai envie de dire, c'est toujours compliqué.
Mon quotidien, il s'inscrit sur toute la longueur de la vie. Il est un seul jour, il n'y a pas de séparation. Donc voilà, c'est un petit... Ce sont des textes qui se sont inscrits dans le cadre de mes vacances, dans le cadre d'un voyage au Portugal. Et j'y ai mis mes réflexions sur ma vie, comme ça, prises séparément. Donc c'est des petits textes à l'enfilade, avec un peu toujours le même fil conducteur. C'est ce qui me définit, quoi, en fait. Ouais. Alors ça s'appelle « Bonjour planète ».
Bonjour planète. Comme si on venait de, comme si on venait de naître, quoi, on arrive. Bonjour planète. Ma vie est un scaphandre, d'où je vois le ciel, la mer, les bateaux et des bikinis à manches longues tellement je suis à l'intérieur. Une vie sans interférence, en communication avec rien. Une vie de dépossession, une vie de possédé. Être là, juste là, la terre à nu sous mes pieds. Je suis habité et mon âme suit. Justement, c'est peut-être ce qui me manque, de me donner complètement. C'est peut-être... je pense que c'est peut-être ça, finalement. Souvent, la barrière, c'est moi-même qui la mets. Peut-être qu'un jour, il n'y a rien qui m'empêche, moi, tout simplement. C'est moi qui m'empêche, ouais. C'est moi qui m'empêche parce que je me suis construit autrement. Je trouve qu'il y a une certaine logique à ce que je travaille au... Je trouve qu'il y a une certaine logique à ce que je travaille au...
Les mots pour l'Airbus 1. Bien reçu.
Je trouve qu'il y a une certaine logique...
Affirmatif, Sylvain.
Je trouve une certaine légitimité à vivre la vie que je vis au Musée Rodin, ne serait-ce que par rapport à certaines... À certaines sculptures, dans Salome qui marche, je me dis que ce sont des sculptures qui ont rapport avec moi-même. Un peu, je m'identifie un petit peu à elles, quoi, en fait. Ouais.
Oui, transmet.
J'aime à me réveiller dans le silence des étoiles. Tout y est plus lumineux. La nuit dit des choses que l'on n'entend pas le jour.
Vous aimez ce lieu ?
Ah ouais, complètement. Surtout là, aujourd'hui, en plus, avec le vent, ça a un petit côté film d'horreur. Ici, on vient juste pour le plaisir de regarder le ciel et puis d'être avec cet instrument qui a quand même traversé les siècles. 1850, donc on y est, on n'est pas encore à deux siècles, mais presque. Et là, bon, en plus, elle a une belle histoire.
Quand on dit elle, c'est qui ?
Elle, c'est la lunette. La lunette Arago. Donc ouais, c'est un grand tube hein, qui fait 9 mètres. Elle a vu pas mal de choses. La vieille dame, là, hein, la lunette, quoi. Ça pèse quelques tonnes. Hein. Il va falloir attendre que les nuages passent.
On peut encore voir Vénus ou elle est couchée ?
Alors, est-ce qu'elle est où, Vénus ?
On va voir ça. Elle doit être un peu basse, mais...
Là, elle est dans les nuages. Hein. Parce que je la vois pas. Tout ce que je vois, c'est la tour Montparnasse. Ouais, elle doit être dans les nuages. À mon avis, ça va être trop bas.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, Pascal, la nuit ?
L'immensité et puis la sérénité. C'est l'impression d'être au centre de quelque chose qui est gigantesque. Par exemple, si on pointe au bout du bras une petite pièce de 10 centimes d'euros, hein, c'est pas grand-chose, quoi. Il faut savoir qu'on peut avoir, dans cette petite zone du ciel donc, qui est matérialisée par cette pièce, on va avoir environ... 100 000 galaxies. Ces galaxies, elles sont très lointaines, mais elles sont présentes malgré tout. Elles sont aux confins de l'univers visible. Et quand je regarde le ciel, il y a cette impression-là, ouais, de ce côté immuable. Parce que c'est vraiment le ciel, le même ciel qui était décrit par les Babyloniens, par les Grecs. Quand on voit les constellations, elles sont là. Et en même temps, on voit, si on passe suffisamment de temps, et encore plus si on passe la nuit... On voit à quelle vitesse le ciel va changer au cours de la nuit. Si on fait juste un coup d'œil comme ça, qu'on regarde, on apprécie la beauté. Puis on a l'impression que tout est désordonné, que si on le regarde 10 minutes après, c'est le même ciel. En fait, non. Il faut avoir une sorte de communication un peu intime, je dirais, avec le ciel, pour reconnaître qu'en fait, il n'est pas le même partout et qu'il va bouger. Qui va tourner, qui va se transformer. Donc on va sentir le temps passer en observant le ciel. Et là, dans la nuit, on a vraiment... Donc tout se... Bon, on a moins de lumière, on a moins de bruit, tout se calme. Donc tout s'éteint. Et puis là, on se retrouve complètement seul, pratiquement face à face avec le ciel. On a le ciel pour nous. Et ça, c'est un besoin. Enfin, de se retrouver là, une sorte de face à face. On est dans une dimension purement contemplative.
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez ? Il y a des pensées dans lesquelles vous vous plongez ?
C'est pas forcément une pensée. C'est-à-dire, l'observation du ciel peut au contraire aider à faire le vide. C'est-à-dire se vider de toute pensée, ce qui n'est pas forcément inutile non plus, parfois. C'est-à-dire on va se déconnecter, d'une réalité quotidienne, des soucis, de la vie normale, etc. Donc on va quelque part, on va presque, bon, on n'a pas le don de pouvoir s'envoler, mais quelque part c'est un peu ça. C'est-à-dire on va complètement être coupé. C'est vrai que cette sensation d'être dans la vraie réalité des choses, quoi. J'aime la solitude que l'on peut éventuellement avoir dans une observation. Le fait d'être seul, en fait, a plutôt l'effet inverse, de me couper, en fait, du monde, davantage.
Ma terre est une mer sèche. Quand j'en aurai fini de tout cela, j'irai brûler un cierge à la mémoire d'Henri Miller. Et j'annoncerai comme lui un homme neuf. Vers où j'essaierai de m'élever.
Si on considère la nuit dans son sens symbolique, effectivement obscurité, où on ne voit rien, même pas les étoiles, ou quelques-unes, au contraire, parce que l'étoile c'est quand même des lueurs, c'est plus source de d'espoir qu'autre chose. Sur le plan personnel, des périodes vraiment... Si, l'impression d'être totalement... de plus savoir où on est, quoi. Des phases où on est totalement plongé, on voit rien, quoi. Tout nous dépasse, ouais. Ouais, ça m'est arrivé quand même, ouais. Mais vraiment d'être totalement perdu, quoi.
Pas de lune ?
Rien. Pas de lumière, rien du tout. Le vide total, le mur, quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne, rien. Pas d'issue, quoi. C'est une nuit, c'est un tunnel, c'est des choses comme ça. On avance, on est quasiment au radar, quoi.
Comment vous avez fait pour trouver de la lumière ?
Oh, là, il a fallu... il y a un moment ou un autre, on a le choix entre soit on plonge complètement, soit on essaye de calmer le jeu, de se ressaisir, de trouver des sources d'espoir qui puissent un peu rallumer les petites lumières par-ci, par-là, quoi. Donc ça se fait tout doucement et ça prend beaucoup de temps. Avant d'arriver à une situation où tout est clair. Ah oui, ça c'est la grande leçon, ça. De toute façon, le jour finit toujours par revenir. Il n'y a rien à faire. Ah oui, la nuit, elle est là, elle peut être profonde, elle peut être noire, dure, d'encre, quoi. Mais elle finit toujours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toujours. Ouais. C'est-à-dire, même les périodes les plus sombres, on finit toujours par en sortir.
Ça, c'est la chaufferie du musée Rodin. C'est impressionnant, hein ? Ça fait peur, hein, un petit peu. Les bruits, on a l'impression qu'il se trame quelque chose, quoi. C'est presque en rapport avec l'ambiance du musée, des sculptures un peu parfois spectaculaires de Rodin, quoi. Ça va un peu dans ce sens-là, avec les sculptures plutôt un peu impressionnantes, comme les bourgeois de Calais, comme Clotho, de Camille Claudel. Ce sont des sculptures avec des visages décharnés, des visages creusés, des habits en lambeaux. Donc ça participe un peu au côté, presque cauchemardesque de l'œuvre, enfin du musée, quoi, en fait. Hein. Quand on part en ronde et qu'on passe dans la... Enfin, voilà, il y a des endroits qui nous font plus encore ressentir ce côté macabre, quoi, un petit peu. Ce côté fantomatique. Peut-être aussi de croiser un peu des... d'avoir la peur de croiser des fantômes en cours de route. Hein. on pourrait avoir peur de rencontrer Rodin en robe de chambre dans les combles. Ça fait ressurgir des vieilles, des vieilles angoisses, on va dire.
Vous vous souvenez de la nuit quand vous étiez petit?
La nuit quand j'étais petit, oui. Pour moi, en fait, j'ai toujours dormi la lumière allumée. Et parce que en fait, j'avais peur du. Enfin, on avait une maison et dans le grenier, le grenier était habité par le père Fouettard et la mère MacMiche, qui étaient censés venir me gronder. Donc pour moi, la nuit représente cette forme, cette angoisse justement, cette angoisse. J'ai demandé toujours à ma maman de laisser la lumière allumée quand elle venait me coucher à 7 heures le soir, quand il était l'heure, quoi, en fait. Et elle n'éteignait la lumière que quand elle-même allait se coucher 2-3 heures plus tard. Mais moi, je pouvais pas m'endormir sans la lumière allumée, ni. Et aujourd'hui, j'écoute encore la radio. Il faut toujours une présence pour pas avoir peur, quoi. Pour la nuit, il faut surtout pas fermer l'œil, quoi. La nuit est plutôt angoissante de ce point de vue-là, ouais. Ouais.
Pourquoi?
Parce que je me sens vraiment, vraiment trop seul. Tout simplement. Parce que j'ai personne à qui parler. Sauf peut-être justement à celle qui est partie, peut-être, je sais pas. J'aimerais tant pouvoir lui parler. Je donne mes secrets à qui le veut. Ils sont là, tout nus, à disposition et souvent seuls, à marcher seuls. À courir seul ou à couder à un bar et rien de plus. Mes plaies sont des plaies ouvertes où la mémoire est absente. Cette zone-là est interdite. Quand j'étais jeune, j'aimais ma différence. Maintenant, elle est allée trop loin. Je la déteste.
Il manque encore un tout petit peu. Je suis en train de tapoter la briche épeautre. Elle peut. Il y a quelques minutes de cuisson, pas longtemps. Pas longtemps. L'histoire qui m'a marquée enfant, c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Ces petits personnages, ce frère et cette sœur, ils étaient frères et sœurs qui avaient une maison de pain d'épices. Donc j'étais déjà plongée dans le monde du pain d'épices, de la nourriture. Ça devait me plaire.
On peut faire de la poésie avec le ciel, hein. Je pense. Je pense par exemple aux constellations, l'histoire d'Andromède, de Persée, de Céphée, de Cassiopée, sont des constellations qui se trouvent vers le nord, hein, du côté du pôle nord. Elles racontent toutes une seule histoire. Donc Cassiopée et Céphée étaient la reine et le roi d'Éthiopie. Donc ils avaient une fille, Andromède. Et Cassiopée s'est vanté que Andromède, sa fille, était d'une beauté qui surpassait celle des Néréides. C'était les Néréides étant les filles du dieu de la mer de Neptune, Poséidon. Poséidon donc a eu vent de ça et n'a pas accepter ça facilement. Donc il a déchaîné tous les éléments, les océans, pour ravager toutes les côtes éthiopiennes. Et pour que tous ces fléaux cessent, la condition qu'il avait exigée, c'était que Andromède soit livrée, donc attachée.
Souvent,
comme ça,
mon rocher, corps lâche et me laisse dans tous mes états. Mais mon âme ne veut pas mourir. Peu à peu, je retrouve alors le goût des choses. Et mon physique s'y recolle. Je peux pas sombrer, quoi, voilà. Je peux pas sombrer parce que tu fais partie du cercle, voilà, du grand cercle, quoi, en fait. Je pense qu'on a un rapport cosmique, hein. Je suis obligé de reprendre des phrases de Bachelard. Je veux dire, être en confiance avec l'univers, c'est ça, quoi. C'est se placer en harmonie avec le grand tout.
Alors, Là. Là, ça sonne plus creux. C'est différent. Là, c'est cuit. Là, c'est bon. Il y a différents sons quand on le remarque au son quand la cuisson est bonne. On va enfourner la première, il est 4 heures. En général, 3h30 souvent. J'enfourne la première fournée de pain. Donc là, on va démarrer avec les pains après. C'est vrai que la nuit, je la maîtrise peut-être davantage. Il n'y a pas le regard des autres. Il n'y a pas. Je suis avec moi-même, avec mes pattes et peut-être plus sereine, ça c'est sûr, plus concentrée, plus. C'est le regard des autres sûrement quelque part, hein, qui m'est plus difficile. Je crois que ça paraît être évident. Ça me poursuit. Je manque de confiance, ça c'est sûr. Je saurais pas pourquoi, je sais pas. Bon, j'ai acquis au fil des années quand même un peu plus de confiance en moi, même si chaque jour est un nouveau jour, un nouveau départ, et il faut toujours essayer de faire au mieux, et on n'est pas, personne n'est à l'abri des erreurs, j'en fais, et même dans mes pattes ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça que je me sens aussi bien la nuit, finalement. Ça m'a permis aussi de m'occuper de mes enfants dans la journée et de faire du pain la nuit, de pouvoir jongler entre la vie professionnelle et mère de famille, voilà.
Vous avez eu combien d'enfants ?
J'ai 4 enfants. Merveilleux. Ils sont un peu loin. Ils sont tous aux 4 coins de la France, mais quand on se voit, c'est un grand bonheur.
Vous êtes une mère, vous sentez ça ?
Ah oui, je crois. Oui, je crois qu'on peut. Enfin, j'arrive pas trop à m'attribuer, mais je crois qu'on peut dire ça. Je suis mère à 150%. Mais j'allais dire, ça correspond aussi à ce que je fais. Je suis aussi mère, de mes pattes, de tout ça. Il y a un côté maternel.
Les bruits de la nuit du musée Rodin. Un collègue qui passe. Une batterie qui se décharge. La circulation du boulevard des Invalides. Le silence.
C'est la tempête ? C'est le vent ou c'est... Ah, c'est la pluie, c'est la tempête, là. Ah ouais, bon, on ferme la coupole, hein. Ah, mais c'est même... Ah oui, c'est vraiment la tempête. On va en voir par le hublot. Ouais. Ouf. Bon, ben... C'est quoi, là ? 5 heures ? Ah ouais, c'est ça, ben, ça. Mais c'est pas une petite pluie, hein. On l'a échappé belle, hein. J'ai fermé juste à temps. Donc je vais remettre. Bon, je vais remettre la coupole en place, mais. Ah oui. Alors, attention, non, c'est dans l'autre sens. Ah oui, mais alors là, c'est. Il pleut des cordes. C'est les seaux d'eau là. Bon, je pense que la coupole ne prend pas l'eau. Hein. On devrait pouvoir rester au sec. Hein. Mais pour le moment, pas question de sortir. Hein. Parce que si on sort, on se retrouve sur le toit. Donc on va prendre la bonne douche, on va attendre. Hein. Là, il n'y a plus d'espoir de voir Saturne. Hein. Je crois que c'est définitivement hors de propos. Quoi. Thank you.
Il est 5h15. On va se lever. On commence là, les premières rondes le matin à 5h, 5h30. On appelle ça, en fait, on fait la, une ronde d'ouverture, quoi, en fait. On fait une ronde d'ouverture avant que les gens du ménage arrivent. On va rentrer le lit, oui. On va remettre les sangles, déjà. Le jour commence à se lever. Les voitures à circuler un petit peu. Le long du boulevard des Invalides. J'aime bien voir le jour se lever, c'est la vie qui reprend, quoi. C'est aussi... on va être libéré de notre responsabilité, parce qu'il faut... Il faut voir ça aussi sous cet angle, que de passer une nuit au musée, c'est aussi avoir des responsabilités. Donc il y a une certaine pression liée au fait qu'on est quand même seul. Et le lever du jour redonne confiance, quoi. Enfin, nous, comme un ami, quoi, en fait.
Vous allez repartir chez vous ?
Oui, je vais rentrer. Je vais rentrer à pied. J'ai 2 heures de marche, environ. J'ai jamais pris les transports en commun. C'est une manière un peu d'évacuer la pression. Et après le travail, c'est qu'en fait, on est trop nerveux pour vraiment dormir, pour vraiment se reposer. Et on est trop fatigué aussi d'un autre côté pour se lancer dans quelque chose de... Donc je marche, voilà. La journée du lendemain est une journée où on n'est jamais... On se sent jamais bien, on se sent jamais à la bonne place, quoi, en fait. Un peu comme si on avait les muscles agacés, qu'on n'arrivait pas à trouver la bonne place dans un lit, quoi, en fait.
Il est 6 heures, pas tout à fait. Non, tout ce qui est briocherie est sorti. Les premiers pains de campagne aussi. On les a entendus chanter. Un petit peu tout à l'heure. Ça va continuer. Et puis là, je continue à façonner, à diviser. Là, on est dans le pain. Je suis sur le complet, là. Et puis tout en enfournant, je continue à enfourner des campagnes. Des baguettes et... Pour m'occuper après des graines. Les graines de sésame, de tournesol, de pavot et les noix.
Il arrive là, le soleil. Donc là, il est 7h moins le quart. Donc on arrive quand même au bout de la nuit et par là-bas, là où c'est totalement, là c'est tout dégagé. On avait les nuages, il n'y a plus rien. Ils ont tous disparu. Donc c'est dans cette zone-là, là où on voit une sorte de, hein, une sorte d'arc-en-ciel qui monte, hein, avec les lueurs. Tu as en bas des lueurs qui sont un peu rouges, puis on passe par le orange, le jaune, le vert, jusqu'au bleu. Il y a un bleu très intense là. Tout en haut là, c'est très très intense, voire noir, parce qu'on est encore vers le haut du ciel. C'est un peu la nuit encore. Hein. Et donc petit à petit, tout ça va monter. Hein. Ça, c'est vraiment le spectacle. Hein. Bien-être. Content d'être là, de voir ce spectacle. Quand on imagine la puissance de... on ne le voit pas encore, mais... C'est comme s'il y avait une sorte de monstre qui allait sortir de l'horizon. Un monstre lumineux. On est content de voir le jour arriver, heureusement, quoi. Mais la nuit, c'était... Oui, on dit au revoir la nuit. La nuit, c'est de l'autre côté.
Les bruits qui se réveillent. C'est beau. Le jour qui se lève, c'est ça. La vie. Les oiseaux qui chantent. Enfin, ils chantent depuis un moment, les oiseaux. On dirait pas, mais les oiseaux chantent la nuit. Écoutez. C'est super. Il y a un calme. C'est paisible. C'est avant le tumulte, le bruit, la course... On devrait apprécier ces moments un peu plus. Joli, hein ? C'est apaisant. Bonjour le coq. Je vois un amandier en fleur. Un amandier. Qui est là. Des silences comme ça, avec juste... juste ça.
C'était Traverser la nuit, avec Cathy Friès à la boulangerie de Chambray-les-Tours, Christophe Olivier au musée Rodin de Paris, Pascal Descamps à l'Observatoire de Paris. Merci à Frédéric Auffray et à l'Observatoire de Paris. Merci à Paul Gogelmasson, Clémence Goldberger et au musée Rodin. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Jean-Michel Coqui. Attaché d'émission, Alison Sinard et Christine Bernard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Élise Andrieux et Julie Béressy pour Sur les Docs.
Ce matin, je me suis rempli de la mer, du ciel et de la ligne d'horizon. Je les ai bu, avalés, un peu compris. La beauté est un calme plat, un bonheur invisible sous la montagne. On ne verra jamais assez la vie. La vie est une prière, la vie est une offrande.